Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mussien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Le samedi 5 février, l'espace culturel Leclerc de Pont-Sainte-Maxence a reçu l'animateur de télévision originaire de l'Oise, Pascal Sautens. Il est venu dédicacer son ouvrage, sorti aux éditions Buissière, Parents d'ado de A à Z. Monsieur Sautens, bonjour.
Bonjour, alors on m'appelle plus souvent Pascal le grand frère, parce que c'est vrai que mon nom de famille n'est pas forcément bien enregistré encore maintenant. Mais voilà, donc oui, il ne faut pas oublier de dire Pascal le grand frère, parce que les gens ne savent pas trop qui je suis sinon.
Avant de parler de l'ouvrage tout à l'heure, on va un peu évoquer votre enfance, votre carrière à la télévision. Alors, est-il vrai que vous êtes originaire d'un quartier de Creil ?
Oui, je suis originaire du plateau de Creil. Donc, j'y ai vécu 35 ans, sur le plateau. Hein. Et ensuite, j'ai déménagé donc, sur le bas de Creil, puis Nogent et d'autres villes à côté.
D'accord. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance, là-bas ?
Personnellement, très bons souvenirs, parce qu'on était tous mélangés. Il n'y avait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, certaines nationalités ensemble, d'autres ensemble. Moi, j'ai grandi avec des Réunionnais, j'ai grandi avec des Espagnols, des Italiens, des Marocains, des Algériens, des Hindous. Et on n'avait pas le problème que l'on rencontre aujourd'hui dans les quartiers où il y a des clans. Voilà, on n'était pas divisés, justement. On était tous réunis. Et moi, je me souviens des week-ends où je goûtais des plats de voisins de différents pays. J'avais des Maliens, j'avais des Congolais. Enfin, c'était incroyable. Ma jeunesse, en tout cas, elle était bordée là-dessus, avec ces problématiques hein, qu'on rencontre dans les quartiers. Est issu d'une famille ouvrière, donc forcément pas beaucoup d'argent. Mais voilà, très bon souvenir.
Très vite, vous vous êtes passionné pour les arts martiaux. Pourquoi ?
Ah, alors, en fait, j'ai commencé par l'haltérophilie, qui est mon sport de prédilection. Ensuite, la boxe anglaise, au club, donc il y avait un club au plateau de Creil, qui existe toujours d'ailleurs, et c'était Saïd Chekab, mon entraîneur, je sais pas, je le cite, qui m'entraînait. Et à l'haltérophilie, c'était Jean-Marie Abera. Et je me blesse au niveau du dos. Je repars donc un an après, m'être rétabli, dans un club de musculation qui s'appelait le Moving à l'époque. Et Jean-Marc, le propriétaire de cette salle, me dit « Pascal, va voir au troisième étage, il y a un mec qui donne des coups de pied en l'air. » Et puis je tombe sur un petit prof qui porte le même prénom que moi. Et je le vois faire des coups de pied retournés. Et là, je vois Bruce Lee, en fait. Et je me dis « Waouh, qu'est-ce que c'est, votre sport ?» Il me dit « Du Kung-Fu. » Et là, je tombe amoureux tout de suite du sport. Et ça fait maintenant 32 ans que je suis dedans.
Vous êtes ceinture noire de Kung-Fu, néanmoins.
Absolument. Cinquième dan international, quatrième dan national, parce que ce ne sont pas les mêmes passages de grade. Et j'ai eu la chance de passer mon cinquième dan international avec Wu Pin, qui est l'entraîneur de Jet Li, superbe acteur qu'on connaît dans les arts martiaux, en tout cas. Et oui, je suis tout ça, plus des titres dont vous allez parler, sans doute.
Alors, vous avez effectué différents métiers, éducateur sportif, vous l'êtes toujours, mais vous avez également travaillé au sein du service jeunesse à Senlis. Vous faisiez quoi précisément ?
J'étais directeur de service jeunesse, donc je me suis occupé des 13-18 ans, avec trois animateurs, deux garçons et une fille, qui étaient sous ma responsabilité, et on devait proposer différentes activités à toute cette jeunesse, entre l'extra scolaire, puisque à la fin des cours, lorsqu'ils quittaient les lycées, on les aidait à faire leurs devoirs, et puis organiser des séjours également. On partait pas à l'étranger, on allait en Corse au plus loin, donc c'était quand même l'étranger quelque part. Bonjour aux Corses d'ailleurs, parce que j'adore la Corse. Et voilà, donc je me suis occupé de tous ces jeunes-là pendant assez longtemps.
Alors on va parler maintenant, si vous voulez, Pascal le grand frère, de votre carrière à la télévision. Ça a duré 7 ans sur TF1. Vous avez animé l'émission Pascal le grand frère, produite par Julien Courbet. Au cas où, les gens qui nous écoutent ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer le principe de l'émission ?
Oui, je veux même rectifier, en fait, ça a duré 15 ans en réalité, mais 7 ans effectivement sur TF1. Ensuite, 4 ans sur Énergie 12 et 4 ans sur C8. L'émission était de mettre un éducateur au sein d'une famille en immersion totale. Donc, je dormais chez les gens. Et c'était essayer de résoudre la problématique entre les parents et leurs ados, soit en difficulté, soit en perte de motivation scolaire, soit famille recomposée. Donc, on connaît la complexité aujourd'hui, famille recomposée. Soit famille monoparentale, ce qui était souvent le cas. Et avec un manque, je dirais, de respect total des ados vis-à-vis de leurs parents. Enfin, on voyait surtout, à travers les images qu'on diffusait, des ados qui insultaient, voire parfois frappaient leurs parents. Donc c'était juste inacceptable pour ma part, inadmissible. Donc il était temps que ce genre d'émission existe. Il s'avère que j'ai été, moi, sélectionné sur 100 candidats. D'accord. Eh bien, ça m'est tombé dessus et aujourd'hui, j'assume bien mon rôle.
Ça a beaucoup fonctionné, ça fait des parts de marché assez importantes.
Ouais, énorme, énorme. 7 500 000 sur la première diffusion sur TF1 à l'époque, après l'émission de Julien Courbet qui s'appelait Sans aucun doute. Et puis on a toujours cartonné, sur Énergie 12 on l'a cartonné, sur C8 on l'a cartonné. Et maintenant il y a de plus en plus de chaînes. Aujourd'hui l'émission s'est arrêtée, un an avant le Covid, il y a eu le Covid. Peut-être qu'il y aura des surprises à la rentrée prochaine, j'espère, en tout cas on est en train d'y travailler.
D'ailleurs cette émission elle est adaptée à l'étranger, notamment en Espagne, en Italie.
Exact, exact. Alors en Italie, ça n'a pas trop bien marché. Ils avaient choisi un éducateur sportif plutôt beau gosse, bien gaulé, abdos, boxeur. Et ça n'a pas marché. Par contre, celui en Espagne, El Mano Mayor, lui a fonctionné pendant 4-5 ans, je crois. Ils ont fait des cartons d'audience en Espagne. Donc on a effectivement vendu, parce que c'est une émission française. Hein.
Bien sûr.
Donc on l'a vendu effectivement en Espagne et en Italie. Donc on n'a pas été déçus du retour.
Très bien. Quelques années plus tard, vous avez également tourné une émission dérivée. C'était en Afrique, au Sénégal et au Gabon. Ça s'appelait Opération Tambacounda.
C'est ça, Opération Tambacounda, Afrique, Sénégal, Gabon et Sri Lanka, parce qu'il y a aussi le Sri Lanka. Donc on a fait 3 pays avec différents jeunes. Le but, c'était d'aller aider des gens en difficulté sur place, construire des écoles, rénover peut-être des maisons, démolir pour reconstruire. C'était un peu l'idée. Mais quand on parle de démolir pour reconstruire, c'était aussi pour leur propre construction. Parce que les jeunes que j'ai, moi, déplacés là-bas, en séjour de rupture, on appelle ça comme ça, c'était de leur dire, arrêtez de regarder votre nombril en France, arrêtez de vous plaindre, et vous allez voir ce qui se passe ailleurs. Et quand on se rend compte que, quand on est au Gabon ou au Sénégal, et les gens n'ont rien, et nous donnent tout, à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre.
Bien sûr.
Je crois que tant qu'on ne voyage pas, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Donc on peut toujours se plaindre, en dire, oui, la France est comme ceci, la France est chiant. Va voyager. Et quand on revient en France, déjà, on y mange bien. Parce que je vous garantis qu'en termes de nourriture, dans les autres pays, c'est compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais c'est compliqué. Mmh. Effectivement, le but, c'est de leur montrer qu'on pouvait devenir quelqu'un d'autre en aidant les autres.
Vous écoutez actuellement l'interview de Pascal Sautens, aka Pascal le Grand Frère. Il était venu dédicacer son ouvrage « Parents d'ado de A à Z » le 5 février dernier à l'espace culturel Édouard Leclerc de Pont-Sainte-Maxence. Alors vous avez animé de nombreuses émissions. On n'a pas parlé de SOS, Ma famille a besoin d'aide.
C'est ça, sur Énergie 12. Donc là, l'émission complètement relookée, puisque à l'époque, on était en immersion au sein de la famille. Et cette émission nous permettait de partir à l'extérieur, justement, sur ce qu'on a déjà appelé un bootcamp. Et on occupait des lieux inédits. Donc on faisait découvrir aussi à travers la télévision différents lieux en France qui sont plutôt magiques. La cabane dans les arbres, par exemple, c'était tout nouveau, ça, à l'époque. Donc on a fait découvrir tout ça et le but c'était effectivement de se retrouver à l'extérieur de la maison pour ne plus être embêté avec le voisinage, avec les amis du jeune qui pouvaient être influents et les proches de la famille. Donc là vraiment j'isolais la famille à l'extérieur et le travail était complètement différent mais très intéressant aussi à faire.
Dans le même concept mais différent néanmoins, vous avez animé également SOS, un boulot pour mon ado, où là vous aidiez les adolescents à entrer dans la vie active.
Ouais, on leur trouvait un job.
Ouais.
Donc, un boulot pour mon ado, ça s'appelait. Et cette émission, effectivement, a aidé certains jeunes, déjà d'une part, à trouver une vocation, donc en termes de travail, parce que souvent, les jeunes que je rencontre, je leur dis « qu'est-ce que tu as envie de faire dans 3 ans ?»« Ouais, je sais pas trop. » Et puis, le but, cela avait déjà un objectif qu'ils ne pouvaient pas atteindre, parce que scolairement parlant, ils avaient arrêté les études trop tôt. Et d'autre part, quand on les a mis sur le terrain, face à des patrons, là, il y avait des entretiens individuel à faire face à des professionnels, donc plus du tout la même histoire. Mmh. Et puis ensuite, ils étaient là pour faire leurs preuves dans un métier qu'ils avaient choisi. Donc une entre autres qui était dans la pâtisserie. Il y en avait un autre qui voulait être cuistot, serveur. J'avais ça. Et puis une qui voulait être avec les jeunes enfants. Et puis le dernier, lui, c'était plus des petits boulots où on change des ampoules. Voilà, il y a 2-3 vis à mettre à droite à gauche. Donc voilà, c'était... C'est pas un boulot dégradant, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il fallait qu'on s'adapte un petit peu à leur capacité intellectuelle, leur capacité aussi, je dirais, de professionnelle. Donc, est-ce qu'ils savent travailler avec leurs mains ? Est-ce qu'ils sont capables de faire un trou dans un mur ? Donc voilà, c'est tout bête, hein. Mais ce genre de choses, certains n'ont pas appris ça, parce qu'on ne leur a jamais montré. Et c'est pas une faille, mais voilà, on apprend au quotidien. Et le but, c'était qu'ils trouvent un job. Et certains ont trouvé des jobs. Donc, ils sont même encore sur place. C'était à Fréjus. Donc, c'était plutôt une belle ville. Mmh. Donc, ils sont au soleil maintenant, pour la plupart d'entre eux, sur 2 sur 4. Parce que les autres sont rentrés à leur domicile pour faire autre chose.
Ce qui est bien, c'est que vous ne l'avez pas toujours fait, mais vous gardez des liens avec les ados, avec lesquels vous avez travaillé.
Oui, j'avais demandé, moi, à l'époque, à la production, de faire un suivi de 6 mois pour chaque ado. Imaginez, on a fait 152 familles, donc ça fait un sacré suivi. Et puis de 6 mois, on a réduit le temps à 4 mois. Parce qu'on s'est dit, on ne va pas leur tenir la main pendant des années, ça ne sert à rien, je ne vais pas les assister toute leur vie. Et puis certains ont grandi, ont eu des enfants, me disent, Pascal, est-ce que tu ne veux pas être le parrain de mes enfants? Et là, je leur réponds, non, les gars. Je ne suis pas un membre de votre famille, je suis quelqu'un qui est venu vous aider à une période de votre vie où vous aviez besoin d'être aidé, vous étiez en difficulté, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, et tant mieux. Mais tout ce qu'on a partagé, il faut que ça vous serve, vous, pour justement élever vos enfants, les éduquer convenablement.
Alors on poursuit votre carrière télévisuelle, parce qu'elle est longue et multiple. Oui. Coach également lors d'une saison de la Star Academy.
Absolument. Je rencontre Stéphane Joffre, qui est le directeur des programmes à l'époque. Il me dit, Pascal, on relance la Star Academy, il me faut un coach sportif. C'est toi qu'il me faut, tu corresponds au style de la chaîne. Tu es jeune, dynamique. J'avais quand même plus de 45 balais, je dis, ouais, t'es gentil, mais voilà, j'accepte le compliment. Et puis on a fait une saison et ça s'est arrêté. Pour eux, les chiffres n'étaient pas suffisants. Pourtant, on faisait 1 million chaque jeudi en termes d'audience, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, je pense que c'était une émission qui était lourde financièrement. Puis c'est la TNT. Donc voilà, il y avait moins de public, effectivement. Mais ouais, très bon souvenir, très très bon souvenir. Ah ouais, j'ai adoré.
Vous avez également été acteur. Vous avez joué un rôle dans une série qui existe toujours actuellement, hein, Les Mystères de l'amour, sur TMC.
Oui, Jean-Luc Cazoulet m'a donné cette chance sur quelques épisodes. Donc vraiment, je le remercie encore aujourd'hui. Je n'ai pas fait que ça, parce que j'ai aussi tourné dans des longs métrages.
Oui.
Donc avec Michael Youn. Entre autres, un autre film sur Netflix qui s'est arrêté à cause du Covid. Donc, j'espère qu'on le reprendra avec M. Lamotta. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Non, mais voilà, ouais, il y a eu des petites choses. Et puis, un court-métrage avec Jérémy Bellet concernant le harcèlement dans toutes ses formes. Donc, ça, c'est très intéressant à faire aussi. Donc, voilà.
D'accord. Monter sur scène, éventuellement, dans un avenir proche, ça vous dirait?
C'est prévu parce qu'il y a une pièce de théâtre qui arrive. Donc on devait être sur les planches au mois de février. Il s'avère que la situation sanitaire ne nous a pas permis de pouvoir mettre cette pièce en route. Donc là, le producteur m'a rappelé, il m'a dit « Pascal, est-ce que tu es toujours partant ?» Oui, je suis toujours partant. Mais quand? Parce que moi, j'ai un bouquin à vendre, j'ai une chaîne YouTube, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Mais oui, les planches, ça m'intéresse, bien sûr. C'est un autre exercice. Hein. Parce que là, c'est du texte par cœur. Il faut aussi jouer un rôle très précis. J'ai un rôle qui n'est pas facile. Je joue le rôle d'un gigolo, donc c'est étonnant. Mais en tout cas, cette pièce m'a fait marrer. Donc je me dis, si moi, ça me fait rire, je pense que ça peut en faire rire d'autres. Et me voir dans un rôle qui est complètement différent. Je ne joue pas un rôle, mais c'est parce que c'est moi, en fait. Mais de me voir différemment, avec un texte à apprendre par cœur, parce que moi, je suis dans l'impro hein, tout le temps. Et donc là, c'est un autre exercice, ouais, plus compliqué.
Vous avez été également chroniqueur dans l'émission de Cyril Hanouna, sur TMP.
Oui. Cyril m'avait demandé, effectivement, d'être dans une de ses chroniques. Je l'ai fait. Je me suis bien marré. C'était sympa. Depuis, on n'a pas renouvelé l'opération. Donc peut-être qu'il me redemandera un jour, si c'est le cas. On avait discuté longuement avec Cyril Hanouna de créer un truc sur la chaîne. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Donc Cyril, s'il m'entend, on peut remettre ça en place. C'était faire des choses aux chroniqueurs qui sont sur le terrain une fois par semaine. Donc ce n'était pas non plus une quotidienne. Mais de le faire une fois par semaine, c'était plutôt pas mal. Donc si on relance ça, pourquoi pas? Moi, je suis partant.
Il y a un petit côté frustrant d'être chroniqueur chez Hanouna, car ça va très vite. Finalement, vous parlez très peu. C'est un peu la course à la parole.
On a très peu de temps. C'est un exercice aussi différent. Être chroniqueur, c'est savoir s'imposer. Ce que fait très bien Raymond, moi, c'est un mec que j'adore, qui a un franc-parler. Voilà, un vrai gars qui est là, qui n'est pas là pour jouer un rôle. Je ne dis pas que les autres jouent des rôles, mais bon, à bon entendeur. Chacun prendra comme il veut ce que je dis. Je l'assume aussi. Hein. Ouais, j'assume tout, moi. J'en ai rien à faire. Je ne dis pas de méchanceté, en tout cas. Ouais, c'est compliqué. Parce qu'il y a du monde autour de la table. Il y a beaucoup de monde et on doit tous essayer de s'exprimer. Alors parfois, quand on nous donne la parole, c'est super. Mais quand on ne nous la donne pas, bah, il faut essayer d'aller la chercher. Et moi, je ne suis pas un mec qui va aller couper la parole des gens. Je ne suis pas comme ça. Donc, c'est une autre façon de s'imposer. Mais oui, si jamais demain, ça se reproduit, je pense que j'essaierai d'être différent, bien sûr.
La première partie du reportage consacré à Pascal Sautens, aka Pascal le Grand Frère, venu le 5 février dernier à l'espace culturel Édouard Leclerc de Pont-Sainte-Maxence, est terminée. Merci de votre écoute. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.